Actu SF, les podcasts.
Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présentes et présents ce matin de mardi 1er novembre. On est très heureux de passer ce moment avec vous autour de la thématique de l'épuisé et. Alors, avant d'introduire un peu cette table ronde, donc je me présente rapidement. Je suis Cléo Collomb, je suis maîtresse de conférence j'ai une double casquette de philosophe et de sciences de l'information et de la communication, et je suis affectée à l'Université Paris-Saclay. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce matin avec vous nos trois invités. Alors, on va commencer par, à ma gauche, Christophe Sieber, qui est poète, écrivain et performeur. Il a reçu le prix SAD 2019 pour Métaphysique de la viande, qui est sorti aux éditions du Diable Vauvert. Depuis 2020, il s'est engagé dans la rédaction des chroniques de Mertvekhorod, dont les premiers volumes, donc il y a Images de la fin du monde en 2020 et Féminicide en 2021, qui ont chacun été finalistes du Grand Prix de l'Imaginaire. Ensuite, juste à la gauche de Christophe, nous avons Hélène Usdin, qui est une artiste aux multiples facettes, puisqu'elle a été diplômée des arts décoratifs de Paris en graphisme et images animées. Elle a débuté également comme peintre pour le cinéma et comme illustratrice de presse et livres jeunesse. Mais elle est aussi photographe. Elle a été lauréate du prix Picto de la photographie de mode en 2006. Et son premier roman graphique, René et au bois dormant, est paru en 2021 aux éditions Sarbacane et il a remporté le prix Utopial de la BD de 2022. Donc félicitations. Et en 2022, elle a également participé au magazine Métal Hurlant avec Nightmare Hotel, dont vous verrez quelques images défiler tout à l'heure, qui est une histoire de SF cauchemardesque. Ensuite, nous avons Wissam Elhage, qui est professeur de psychiatrie adulte, qui est directeur du Centre d'investigation clinique de Tours et co-directeur de l'équipe psychiatrie neurofonctionnelle du laboratoire eBrain de l'INSERM Université de Tours. Il est également responsable médical du Centre régional de psychotraumatologie du Centre Val-de-Loire, en lien avec le Centre national des ressources de résilience. Et il est également membre de la Société européenne d'études du stress traumatique, référence européenne et internationale dans la prise en charge des patients victimes de traumatismes. Et il a publié différents livres, et dont un livre grand public sur le trauma. On pourra peut-être le montrer tout à l'heure. Voilà. Alors, concernant la petite introduction, avant de passer la parole aux intervenantes et intervenants, on pourrait dire, qui sont les épuisés ou qui est l'épuisé? Alors, on pourrait dire que ce sont des personnes qui sont déçues à l'égard de la vie et qui éprouvent une difficulté à être au monde et surtout à être dans ce monde-ci. Ce sont des personnes ou des personnages crépusculaires, comme cet insomniaque pour qui la nuit ne s'arrête pas, comme cette dame âgée seule qui ressent le poids de la vie sur ses épaules, comme cet homme expulsé du monde du travail et qui vit reclus entre ses quatre murs, comme toutes celles et ceux qui ne se remettent pas d'une rupture sentimentale, d'un accident, d'un licenciement, comme toutes celles et ceux qui se retrouvent condamnés à vivre dans le monde tel qu'il est, avec ses bordures, ses cadres, ses limites. Ce sont toutes ces personnes-là qui sont des épuisés. Et dans cette table ronde, on va essayer de comprendre l'épuisé au sens que le philosophe Gilles Deleuze donne à ce concept lorsqu'il commente Beckett. Donc, ce qui est intéressant avec sa figure de l'épuisé, ou peut-être un concept d'épuisé, c'est que c'est l'épuisé non pas comme une figure qui serait passive et qui subirait, mais comme au contraire une figure qui est active et qui est positive. Parce que, en fait, il peut être tentant d'interpréter l'épuisé ou l'épuisement à partir d'une grille de lecture individualiste ou psychologiste, c'est-à-dire comme si c'était juste un problème individuel, d'une personne individuelle qui a une faiblesse et qui est épuisée, ou qui est suicidaire, ou qui est dépressive. Donc, ramenez ça, si vous voulez, à l'intrapsychique. Mais on peut aussi chercher à comprendre l'épuisement d'une manière qui est plus collective et qui est plus politique. C'est-à-dire que l'incapacité des épuisés à trouver leur place nous pousse à réfléchir notre société, nos relations, nos cadres, dans ce qu'ils peuvent avoir de problématique. Et dès lors, s'intéresser aux épuisés, les suivre aussi dans leur parcours, c'est pas se laisser envahir par un sentiment d'impuissance ou d'impasse. Bien au contraire, c'est se laisser dériver dans des lignes de fuite qui sont tracées par ces déceptions pour le monde. Donc c'est un petit peu autour de ces thématiques, bien sûr, on pourra totalement changer de perspective, mais c'est peut-être autour de ça qu'on va essayer de comprendre l'épuisement. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, peut-être ça s'adresse en premier lieu à nos intervenants artistes, c'est est-ce que vous pourriez nous parler d'un épuisé ou d'une épuisée qu'il y aurait dans votre travail, dans vos fictions, dans vos œuvres et donc, qui c'est? Qu'est-ce qui lui arrive? Comment ça se passe?
Bonjour déjà. Je sais pas si s'il y a un épuisé en particulier qui serait saillant dans mes bouquins, mais je crois effectivement, enfin quand j'ai réfléchi à cette table ronde, je me suis rendu compte que la notion d'épuisement, de bout du rouleau, a été quand même très très présente dans ce que j'écrivais, et je crois que aussi bien dans l'image de la fin du monde que dans Féminicide, je mets en scène un monde qui lui-même est épuisé, va au bout de lui-même au bout de son propre rouleau. Et donc, des gens qui, saisis par cette, peut-être par cette fin du monde lente et inévitable, tentent de faire face à cette fin, à cet épuisement qui les saisit eux-mêmes. Et au bout du compte, ça revient à raconter les histoires de gens qui vont mal, en fait, tout simplement. C'est-à-dire de gens qui sont mis au banc de la société pour des raisons sociales, qui sont mis au banc d'eux-mêmes parce qu'ils ont des problèmes psychiques, des problèmes de drogue, des problèmes d'alcool, peu importe. Mais d'une façon générale, je crois que ce qui m'intéresse le plus dans la figure de l'épuisé, c'est que ça permet de parler des gens qui sont à la marge, des gens qui souffrent, et de produire des fictions qui donnent à lire aux gens qui souffrent moins, les histoires de gens qui souffrent davantage, dans le but de créer un pont plus grand et plus solide entre eux, quoi. C'est un peu ça l'idée, je pense.
Bonjour. Alors, moi, je réfléchis un peu, du coup, à cette question de savoir pourquoi on m'avait invité par rapport à cette question de l'épuisé, que, du coup, j'ai pris un peu, on peut dire, au sens beckettien. Donc, j'ai relu Quad, etc., toute cette petite série de... Et en fait, ce que je pourrais rapprocher de ma façon de raconter des histoires, qui est finalement assez récent, puisque c'est ma première bande dessinée, je pense qu'effectivement, c'est cette idée d'épuisement, d'essayer d'aller au bout de quelque chose, toujours dans l'idée de recommencer, d'avoir quelque chose de répétitif, mais qui finalement ne l'est pas, n'est pas possible en fait. On ne peut pas répéter à l'identique les choses dans la mesure où on vit dans des contraintes anthropiques où les choses ne se répètent jamais de la même façon. Donc finalement, il y a quelque chose de... très énigmatique et de très séduisant en nous en tant qu'humains d'essayer d'aller dans la répétition. Je pourrais aussi dire que moi je suis fascinée par les jumeaux ou par les clones, justement pour cette idée que quelque chose de répété exactement parfait nous semble étrange. Et dans ma bande dessinée donc René, je pense que ce que j'ai essayé de travailler autour de ce personnage qui s'appelle René, qu'on voit à différents niveaux de sa vie, enfant, adulte, mort, puis par l'intermédiaire de sa fille. C'est comme des cercles concentriques, en fait, où il va perpétuellement tourner en rond jusqu'à découvrir comme dans un jeu vidéo pratiquement, la voie pour sortir de ce cercle et passer à l'étape suivante, jusqu'à finalement sa mort. Et après, c'est sa fille qui prend le relais. Ce que je voulais dire, c'est que pour essayer d'illustrer cette idée, j'avais repensé à un travail que j'avais fait aux Arts Déco, qui était prendre un document, le photocopier, faire la photocopie de sa photocopie, de sa photocopie, de sa photocopie, et à la fin, on arrive finalement à une image tellement altérée qu'elle semble soit chaotique, soit vide. Je trouve que cette idée de l'épuisement colle assez bien finalement à ce que pourrait être un épuisé dans nos sociétés, de la recherche de sortir d'un cercle infernal. Et la voie pour en sortir, c'est peut-être soit la quête de vérité, soit la quête d'un secret, soit la quête de qu'est-ce que c'est que ce monde effectivement qu'on subit.
Parce que ce que tu me dis me faisait un peu penser aussi à l'épuisement, mais au sens de Pérec, c'est-à-dire prendre une situation, un territoire et le creuser jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien à en faire et à en dire. Et c'est une forme d'épuisement peut-être plus positive que celui qu'on évoquait au début. Et qui m'a, enfin, c'est vraiment ça que ça m'a fait penser, ton histoire de photocopie et même ce que tu racontais de ton livre.
Oui, c'est ça, c'est essayer de dresser, comme le dit Deleuze à propos de Beckett, d'essayer de dresser des listes exhaustives, mais en fait c'est impossible. Enfin, même si on revient au concept même mathématique de, par exemple, la course du lapin et de la tortue, le lapin qui n'arrivera jamais finalement à dépasser la tortue, parce qu'il y a toujours ce laps de temps entre deux qu'on peut toujours infiniment diviser. Donc en fait... Il y a quelque chose d'abyssal en fait dans l'épuisement qui peut aussi nous donner une idée de vertige et de.
Merci. Wissam, est-ce que en soin tu rencontres des épuisés?
Oui, bonjour. Oui, l'épuisé, c'est vraiment, c'est pas le fatigué, c'est quand il y a plus de jus, on peut dire un peu communément. Ou c'est quand on a épuisé quoi, en fait? On a épuisé tout ce qu'on a, quand on a épuisé toutes nos ressources. Et en fait, on se rend compte qu'on a tous accumulé au cours de notre vie comme un paquet de ressources, un trésor caché, ce qui nous fait nous-mêmes. Alors c'est peut-être notre vie, notre histoire, nos histoires, nos parents, notre société, notre culture. Tout ça, en fait, ça fait comme des bons boissons, drinks pour échanger. On a un tas de ces petits coupons. Et en fait, à un moment donné, ça bug. On n'a plus de ressources, on n'a plus de coupons pour s'hydrater. Et on est, comme disait Hélène à l'instant, j'aime bien cette image de la répétition. C'est comme un disque, vous voyez, pour... les anciens qui savent que quand un disque bug, ça tourne un peu en boucle et ça n'avance plus. Donc il y a quelque chose de temporel dans l'épuisement, c'est-à-dire qu'il y a un temps suspendu déjà, il n'y a plus de reprise de fonctionnement, il y a l'impression que c'est fini. Un peu l'autre image de l'épuisé pour moi, c'est l'impasse. C'est comme si vous êtes dans une voiture qui ne peut pas faire marche arrière, point de vue temporel, et que vous rentrez dans une impasse. Et vous pensez que plus rien n'est possible, puisqu'à un moment donné, vous avez épuisé vos ressources, votre façon d'être au monde, dans les liens aux autres, et vous avez l'impression que tout s'écroule. Ce qui est intéressant dans les soins, dans l'humain, dans la société, c'est que de comprendre, comme tu disais au début, que c'est peut-être une occasion. L'épuisement, c'est comme une crise à l'échelle individuelle, à l'échelle sociétale, à l'échelle globale. Et de se dire, c'est une façon, c'est un moment, c'est une opportunité, peut-être de rendre quelque chose qui était impossible avant, de le rendre à ce moment-là possible. Ou bien d'ouvrir le champ du possible. Quand tu es dans une impasse, de savoir que quand tu es dans une impasse en psychiatrie, ou quand tu veux te suicider, quand tu es traumatisé, déprimé, quand tu es en burn-out, quand tu as été violé, quand tu as été maltraité, tu as l'impression que c'est foutu, c'est l'impasse. Et toute l'humanité là-dedans, c'est de rendre finalement les choses possibles, de réenvisager la vie autrement et d'ouvrir de nouveaux champs du possible, en fait, d'une certaine façon.
Oui, c'est toute la difficulté. Deleuze, là, dans son petit texte sur Beckett, il dit bien que l'épuisé, c'est pas le fatigué. Le fatigué, il dit, c'est celui qui arrive au bout d'une réalisation. Je fais l'ascension d'une montagne, j'arrive en haut, je suis fatigué, je me repose et ça repart. Il dit, l'épuisé, c'est pas ça. L'épuisé, c'est pas juste le fatigué. L'épuisé, c'est celui qui a épuisé le possible. Hein, d'où les questions de répétition, de combinatoire. Et ce que tu dis là, je l'entends, mais justement, quand on arrive épuisé, qu'on n'arrive plus à possibiliser, comment on s'en sort? Et est-ce que c'est à nous de nous en sortir, ou donc est-ce que c'est à nous de changer, ou est-ce que c'est au monde de changer?
C'est à l'autre de nous rendre les choses possibles. Parce que justement, quand tu es épuisé, bah, tu n'as plus cette capacité, par exemple, à envisager, tu crois que tu n'es plus capable. Et en fait, l'autre, nous autres, pour celui qui est ou celle qui est épuisée, de remettre un peu du champ du possible, c'est-à-dire un peu d'humanité, d'aide à réfléchir autrement, apporter des perspectives et de remettre un peu en valeur toutes les ressources. Parce que quand on est épuisé, on ne voit plus non plus, d'une certaine façon, on est un peu avec des œillères, on ne voit plus ce dont on est capable. On ne voit plus ce qu'on a de ressources. On ne voit plus, tout devient noir, obscur, vide, suspendu, il n'y a plus rien. C'est le vide absolu. Et l'autre, l'autre humain, va venir, l'autre soignant, l'autre proche, va venir mettre soit en valeur ce dont on est capable, et ne serait-ce que par le soutien, le témoin d'humanité, même quelqu'un d'épuisé, lui laisser le temps, lui apporter le soutien nécessaire, va remettre un peu d'humanité, un peu d'énergie. Alors on le voit beaucoup dans quand même le surmenage ou les traumatisés qui, quand vous avez vécu une agression violente, une mort grave, une violence, un viol, ben vous avez l'impression que tout est suspendu et il n'y a plus que ça dans la vie. Et comme tu disais, tout retourne en boucle dans les cauchemars, dans les pensées. Je ne vaux rien, je ne suis rien, je suis vide, je suis vidé, la vie n'a plus aucun sens. Et c'est grâce à, finalement, l'autre humain de remettre un peu, si tu veux, d'énergie, de mettre en avant ce que nous ne sommes pas réduits à un événement qui nous a anéantis, de remettre un peu au cœur du dispositif ce qu'il y a de plus humain. Nous ne sommes pas le coffre, nous ne sommes pas les billets de banque qu'il y a dans notre coffre, c'est nous qui faisons les billets de banque. Et donc de retravailler sur notre capacité à rebondir, à remettre un peu de sens là-dedans.
C'est marrant, je constate en t'écoutant, et en nous écoutant tous d'ailleurs, qu'on a un vocabulaire très géométrique pour parler de ça. On parle de cercle concentrique, de spirale, d'impasse, d'élan, de rebond. C'est très très géométrique en fait, cette histoire d'épuisement et de désir vital.
Oui, et puis je pensais aussi à un truc, mon fils qui fait des mathématiques, il m'a beaucoup parlé de la théorie des graphes et qui se rapproche vraiment de la première scène de Beckett, donc Quad, qui est en un nombre de points donnés, quelles sont toutes les distances et tous les chemins qu'on peut parcourir avec ce nombre de points donnés, et ce qui peut donner, quand on a une multitude de points, des graphes absolument sublimissimes en fait. Et il y a une certaine beauté finalement dans ces schémas géométriques.
Même une force symbolique.
Ouais. Oui, parce qu'il n'y a plus de cinétique, si tu veux, dans l'épuisement. Il y a même, en fait, à la limite, il n'y a même plus de, de possible. À un moment donné, il y a le temps est suspendu, la composante temporelle dans un graphe, elle est suspendue, tout devient impossible en fait. Et le tout, c'est de remettre du possible là-dedans, de cette crise. Là, regardez, nos sociétés traversent des crises. Ce qui était impossible avant une crise devenait possible au moment de la crise. Et c'est ça qui est à l'échelle individuelle intéressant, c'est de se dire que comment je peux transformer quelque chose qui était fini en quelque chose possible. Si vous prenez un vase qui est cassé, il est épuisé, il n'y a plus de vase. Ben dans l'art japonais, le Kinjoji, ils vont remettre du sens, ils vont rassembler, ils vont remettre de la dorure et ça devient une pièce d'art. Cette assiette qui est cassée, c'est ce qu'on appelle, nous, la résilience, en fait. Cette capacité, finalement, de quelque chose d'épuisé qui n'existe plus, suspendu à un temps T, bah, remettre du mouvement, c'est recréer une pièce qui est encore plus belle que la pièce d'origine.
Et juste pour... Enfin, ça m'a fait penser à un truc, ton histoire d'impasse, tu arrives dans une impasse, et effectivement, dans le monde réel et psychiatrique, j'imagine que ça doit être... Enfin, il y a des paramètres donnés, mais en tout cas, dans le monde de la narration et de la bande dessinée d'autant plus, en fait, quand on arrive à une impasse, on peut tout imaginer. C'est-à-dire que j'arrive dans une impasse, bah, je peux imaginer que, bah, que c'est pas grave, je monte sur le mur, je vais à droite, je vais à gauche, je m'envole, etc. Et donc je pense que l'art, finalement, comme tu viens de le dire, c'est aussi une façon de créer des nouveaux champs, des nouveaux chemins, et qu'il faut absolument en profiter, en fait. Et c'est, enfin voilà.
Et moi, c'est sur le terme de crise que je voulais rebondir un petit peu, parce que effectivement, pour en revenir, ouais, à la littérature de fiction romanesque, et notamment chez Simenon, et j'ai l'impression que j'essaie de m'inspirer aussi dans mon propre travail, c'est la notion de crise chez l'humain qui le révèle. Alors Simenon est un auteur de romans plutôt policiers, ça sera une crise morale ou d'ordre criminel, mais pour lui, et je pense que c'est un principe romanesque important et très fort, l'être humain est pris dans son courant d'activité, son courant quotidien, et survient quelque chose qui va le briser ou le confronter à une impossibilité, une impasse, un épuisement. Et c'est donc dans cette crise qui va se révéler. Simenon parlait de l'homme nu, c'est-à-dire de l'homme débarrassé de ses oripeaux sociaux. Je ne sais pas dans quelle mesure ça fait sens en psychiatrie, cette idée d'homme nu.
Il y a beaucoup de choses qui font sens, parce que justement... la crise, par exemple, quand tu vas à l'hôpital, déjà, tu es un peu mis à nu. Tu es mis à nu parfois physiquement, mais tu es mis à nu aussi psychiquement, puisque finalement, tu dois te livrer, à des gens inconnus. Tu dois aussi me remettre un peu de confiance. Il faut avoir confiance quand même dans l'humain pour pouvoir leur dire tes problèmes et croire que... Il y a du possible, ne serait-ce que là, c'est déjà un acte. Moi, je vois les plus épuisés et désépuisés et les plus difficiles, c'est ceux qui arrivent, qui ne disent rien, où il n'y a plus de possibilité de mettre du mot là-dessus. Et à ce moment-là, notre rôle à nous, c'est d'avoir envie pour l'autre, finalement, presque. C'est-à-dire que là où il y a le vide, bah, si tu as une table vide, bah, tu vas venir essayer de construire comme une feuille blanche, tout est devient possible, et tu dois construire à partir de là. Et donc il y a beaucoup de choses et beaucoup de mythes aussi autour de la répétition, le mythe de Sisyphe, un peu les choses qui se répètent à l'infini, comme ces photocopies que tu répètes à l'infini jusqu'à un certain épuisement de sens de l'image. Et en psychiatrie, par exemple, quand quelqu'un est traumatisé, hein, il y a cette impression de tourner en boucle, hein. Les gens qui ont fait la guerre Afghanistan, les gens qui sont victimes de violences conjugales ou autres, bah, l'impression d'être dans une lessiveuse et que tout tourne autour de ça pendant parfois des années, jusqu'au moment de savoir comment je m'en sors. Et toute la difficulté, c'est de dire, finalement, de sortir de ce néant, de cette répétition qui est très difficile. Ouais.
Alors, tu as parlé des épuisés qui arrivent silencieux. Enfin, silencieux, je ne suis pas sûre qu'ils soient vraiment silencieux, mais en tout cas, ils ne verbalisent pas. Et donc, ça pose la question des moyens d'expression des épuisés. Parce que souvent, les épuisés font quelque sorte l'épreuve des limites du langage. Soit parce qu'ils sanglotent, parce qu'ils gémissent, parce que... ils s'évanouissent, par exemple, je sais pas, dans René, est-ce que le thème de l'évanouissement, c'est une manière d'exprimer, un mode d'expression de l'épuisé ? Voilà, la question que j'aimerais un peu vous poser, c'est comment s'exprime un épuisé, lui ou elle, qui fait à ce point les limites du langage ?
En littérature, ouais, c'est une problématique très intéressante. Enfin, surtout si on considère que la littérature a notamment pour fonction de donner une voix, de donner une langue à ceux qui en sont privés pour des raisons diverses, temporairement ou définitivement. Comment fait-on parler, comment parle-t-on en plus à la place de quelqu'un qui n'a plus le langage ? Et bon, il y a des outils, mais qui évidemment ne permettent encore une fois que de s'approcher, c'est-à-dire qu'on peut pas mettre réellement en scène de façon immédiate, enfin littéralement, c'est-à-dire sans médias, la personne qui va mal. Donc on fabrique des masques, des personnages, des histoires, des situations, dans l'idée de faire partager cette expérience pendant un court moment au lecteur. Parmi ces outils, il y a le rythme de la langue, le concassage de la syntaxe, le jeu sur la ponctuation, la voix intérieure, il y a toutes sortes de choses. Mais bien sûr, ça ne permet que de s'approcher, que de faire une sorte de tourisme dans un territoire mental, quoi.
Moi, je crois qu'effectivement, que ce soit la métal hurlant, les planches que tu as mises ou dans René au bois dormant, ma façon de donner la parole à mes personnages, qui sont effectivement tous quand même des personnages traumatisés, c'est vraiment par le biais de la symbolique, donc par le biais du rêve. Et en fait... Le twist que j'ai pu trouver avec René, c'est effectivement de raconter un garçon qui s'évanouit perpétuellement et dans ses évanouissements, il part dans des rêves et ses rêves vont nous donner une porte ouverte sur son inconscient et sur ce qu'il est finalement et sur sa quête. Et c'est en fait des rêves dans des rêves dans des rêves dans des rêves. Donc il y a toujours cette idée d'aller toujours dans plus loin, plus profondément, jusqu'à effectivement l'épuisement dans René, qui est que il meurt en fait, il se suicide, et finalement il y a la transmission, donc c'est sa fille qui reprend et qui pareil repart dans ses rêves, dans ses rêves, dans ses rêves, dans ses rêves, et finalement l'histoire je l'avais construite aussi dans l'idée que une fois qu'on l'a fini, on la relit parce qu'en fait ça commence par la fin et comme l'idée c'est qu'on comprend pas tout de suite, on a voilà. Et dans Métal hurlant, je pense qu'il y a cette même idée de portail de rêve dans un rêve dans un rêve, à tel point qu'on ne sait plus où est la réalité, où est le rêve. Et c'est un peu ça qui m'intéresse, je pense. Enfin, je me rends compte en fait en avançant dans les histoires, cette notion de perte de l'ancrage dans la réalité par le biais du rêve. Et l'autre truc, c'est juste que je voulais dire, c'est que comme moi je fais de la bande dessinée, je peux vraiment m'appuyer sur le dessin pour exprimer les émotions, et le texte vient dans un sens dans un second temps. Donc j'ai moins cette problématique que toi de savoir comment faire exprimer quelqu'un qui ne peut plus parler en fait.
C'est très intéressant cette idée de perte d'ancrage dans la réalité, parce que c'est vraiment ce qu'on observe, quelqu'un qui est en mélancolie, en suspendu, qui est épuisé, traumatisé, et effectivement une sorte de perte de réalité. En fait, on parle, nous, de déconnexion, de dissociation, de déréalisation. Et en fait, tout notre travail va un peu consister à remettre du réel, à remettre de l'ancrage dans la réalité. Parce que sinon, c'est une fuite, notamment chez le traumatisé, c'est une fuite permanente de la réalité. Et à un point, on perd complètement pied. Parce que on peut s'isoler, par exemple, si vous avez été agressé dans la rue, petit à petit, comme une tache d'huile, on va avoir peur de sortir de chez soi, peur de sortir dans la rue, peur de sortir accompagné ou pas, et on s'isole dans un chez-soi mortifère. Et c'est un peu la mort, un peu dans ce que tu dis. Donc, l'image en vous écoutant me vient, c'est celle de avec surtout tes images là, très concentriques. J'aime beaucoup ces lignes, en fait, et on voit bien que les dessins les plus angoissants sont ceux où les lignes ne sont pas droites, où il y a moins de mouvement, les lignes où sont très concentriques. Et ça m'évoque un peu le fait d'être, quand on est épuisé, on est égocentré. C'est-à-dire on ne voit plus que soi. Et le monde, on a du mal à s'ancrer dans le réel de l'autre. Et en fait, la thérapie consiste à dire de passer de l'égocentrique à l'égoïste. En fait, quand tu es égocentré, tu es centré sur ton nombril, alors que quand tu es égoïste, tu es centré sur tes besoins, sur tes ressources. Et quand tu es centré sur tes besoins et tes ressources, bah, tu remets du sens, de l'ancrage, des billets de banque dans le coffre, ainsi de suite.
C'est une sorte, en fait, d'extension ou de contraction du territoire mental, du territoire autorisé.
Oui, bah, totalement. Oui.
Je me demandais, déjà, est-ce qu'il faut soigner les épuisés ? Enfin, je comprends qu'il peut y avoir un malaise, donc on peut vouloir les aider à aller mieux. Mais est-ce que c'est eux le problème ou est-ce que c'est le monde le problème ? Au sens où, est-ce que l'épuisé, c'est pas un peu le canari dans la mine ?
C'est toujours un peu la question de la norme, en fait. C'est-à-dire, il y a un monde, il y a une société, il y a des gens dedans. Des gens qui y sont adaptés, des gens qui y sont moins adaptés, des gens qui ne sont pas adaptés du tout. Et donc, est-ce qu'on doit prendre les gens inadaptés et les adapter ? Ou est-ce qu'on doit tordre le monde pour le mettre à la portée de chacun ? C'est plus une question comme ça, je pense, qui se pose. Bon, qui est insoluble, hein, évidemment, mais en tout cas, c'est une question importante.
Oui, je pense que c'est exactement ça. Mais enfin, en tout cas, moi, j'ai abordé cette question-là dans René, justement, du point de vue de ce petit garçon issu des Premières Nations canadiennes et qui a été adopté de force sans qu'on lui dise. Et en fait, c'est le gouvernement canadien qui, dans les années 60, avait mis en place une politique d'adoption, de pensionnat, comme on en a entendu beaucoup parler l'année dernière. Justement, ils ont décidé eux-mêmes que pour adapter ces gens qui ne vivaient pas correctement à leurs yeux, il fallait qu'ils intègrent des familles blanches. Donc là, on est vraiment dans un dispositif de... Mais en fait, qui a raison, quoi ? C'est-à-dire que la majorité décide qu'on doit fonctionner de cette façon-là. Donc les minorités, là, dans mon histoire, les Premières Nations, les Amérindiens, ne fonctionnant pas de la même façon, on doit éradiquer leur culture et les faire entrer dans le modèle, quitte à ce qu'il y ait des personnes traumatisées, comme René, donc l'histoire que je raconte, qui finalement... il y en a eu plein des histoires de petits garçons ou de petites filles qui ont vécu complètement traumatisées leur vie à cause de ces placements. Enfin...
Oui, puis ce que tu dis, ça pose aussi la question de l'intention. C'est-à-dire, le but de la société est-il de fabriquer des gens qui sont heureux, ou en tout cas le moins malheureux possible, ou des gens fonctionnels et efficaces du point de vue productif ? Et ça change tout. Là, effectivement, tu décris un monde où les gens doivent être adaptés pour remplir une fonction, et s'ils ne la remplissent pas, ils sont inutiles, donc indésirables. Et c'est terrible d'imaginer ça.
Alors, pour moi, il n'y a pas de réponse univoque, parce que ça dépend, tu es épuisé de quoi ? Si tu es épuisé de la société, de ce qu'on t'offre, parce que tu vis en Corée du Nord, parce que, et encore, tu ne te rends même pas compte forcément. Enfin, ça dépend de la raison de pourquoi tu es épuisé. Mais je pense qu'il faut, enfin, c'est peut-être mon côté thérapeute, de donner toujours un peu d'espoir. Et je pense qu'il faut, à l'échelle même individuelle, de dire... ça rejoint l'idée de l'impossible qui devient possible, de dire qu'un changement est possible. C'est-à-dire ne pas croire qu'on est dans quelque chose de fermé et qu'on est épuisé et que ça y est, c'est la fin. Sinon, on est soi-même épuisé. Est-ce que ce n'est pas d'être épuisé que de penser que si on est épuisé, excuse-moi, hein, je ne sais pas si tu es épuisé, mais en tout cas, est-ce que ce n'est pas une façon d'être un peu au bout de rouleau que de penser que si on est épuisé, bah, on a raison d'être épuisé, et puis c'est la mort, puis c'est fini, merci, au revoir. Non, je pense qu'il faut toujours un peu remettre dans la perspective plus globale. Si on est malade de notre société, Bah, que faire pour changer notre société? Si on est malade de notre famille, bah, on se sépare de notre famille. C'est compliqué à faire, mais c'est de dire on se sépare de sa famille, mais parfois c'est salvateur.
C'est marrant ce que tu dis, parce que pour revenir un peu à la fiction, moi j'ai l'impression qu'il y a deux types de fiction romanesque qu'on peut proposer aux gens, aux lecteurs, aux lectrices, c'est de la fiction compensatoire, c'est-à-dire qui va te permettre d'aller mieux et de libérer certaines énergies, certaines contradictions, certains désirs de changement dans le temps de la lecture. Mais une fois la lecture finie, voilà, tu es de retour dans le monde réel et tu n'auras plus l'énergie de le changer. Et des fictions, au contraire, c'est ce que j'essaye de faire, parce que mes modèles faisaient ça, qui vont proposer justement un monde tellement terrible, tellement noir, tellement difficile à aborder en tant que lecteur, que ça va peut-être donner justement l'énergie, la colère, une forme d'énergie et désespoir, donc d'espoir, et en tout cas une force de changer le monde réel une fois le bouquin fermé. Et pour moi, c'est aussi une des fonctions de l'art qui rejoint peut-être ta fonction thérapeutique, c'est-à-dire de prendre quelqu'un et de lui donner la force de, comme tu disais, de construire la vie qui lui convient si sa vie actuelle ne lui convient pas, quoi.
Je te rejoins, il y a une autre métaphore qui est très intéressante, qu'on utilise beaucoup, c'est-à-dire que quand tu es enfermé, par exemple, dans le même cauchemar tout le temps, c'est insupportable, hein, tu ne dors pas, tu es épuisé de tout ça, et en fait, tu peux introduire, grâce à l'imaginaire, grâce à une sorte de fiction, de dire au sujet, bah, quand on dort, tout est possible. Un peu comme cette page blanche, de dire, votre cauchemar, là, en plein cauchemar, dites-vous que tout est possible dans le rêve, vous pouvez avoir des super pouvoirs, et tout d'un coup, des super lasers, vous pouvez transformer votre cauchemar en vous donnant des pouvoirs, des compétences nouvelles, et vous allez transformer votre cauchemar en dormant. Et en fait, cette transformation fictionnelle, dans le rêve, dans l'imaginaire, va avoir un impact sur le réel, le lendemain, en éveil. Et ça rejoint un peu ce côté fiction du roman, de la BD, de l'art, de la culture, qui vient comme quand tu es blessé, traumatisé, et que tu vas sublimer ça à travers ton travail, bah aussi la fiction peut être réparatrice à l'échelle individuelle.
Oui, moi je peux dire que c'est carrément comme ça que j'ai travaillé ma bande dessinée, c'est-à-dire que c'est tous mes rêves que j'ai mis dedans, mes cauchemars surtout, effectivement, et que c'est vraiment un moyen pour moi, effectivement, de m'échapper de mes rêves, en fait, de les mettre sur le papier pour qu'ils soient moins présents en moi. Et j'ai appris un peu, effectivement, cette capacité de contrôler un peu, d'essayer de revenir souvent sur les mêmes rêves. Mais ils évoluent aussi au fil du temps.
Tu n'as pas échappé à tes rêves, tu les as regardés en face, puisque tu les as même dessinés.
Oui.
Et en fait, en plus tu les contrôles, plus ils s'éloignent. Mais tu n'y as pas échappé, c'est eux, tu les as fait fuir. C'est ça qui est très beau dans la psyché, c'est que même ces pires cauchemars, on a l'impression qu'on est sous emprise, on est épuisé par ça, bah, le fait de renverser la tendance, tel que tu as fait, bah, tu as dit, bah, non, mais je vais renverser la tendance, je suis plus forte que mes cauchemars, et c'est eux qui ont fui.
Bah oui, voilà.
C'est vrai que cette
fonction... Vous êtes en direct, en live, là.
C'est vrai que cette fonction curative de l'art, de la littérature, c'est assez fascinant. À ma modeste échelle, je reçois des fois des témoignages de lectrices ou de lecteurs qui me disent grosso modo que les horreurs que je raconte, que je parle d'inceste, de pédophilie, de viol, de crimes, de toutes sortes d'oppressions, enfin je charge la mule. Et des lecteurs et des lectrices donc m'écrivent pour me dire qu'avoir lu ces horreurs mises en fiction et sous une forme du coup plus divertissante que la vie réelle a fait du bien à leurs propres horreurs, et c'est toujours quand même des témoignages assez touchants à recevoir, quoi.
Je peux vous dire que la pire des fictions, les pires des films d'horreur sont soft à côté de la réalité que j'entends de temps en temps.
Oui, oui. Le prochain Métal Hurlant, c'est sur les monstres. Et donc, je me suis un peu penchée justement sur qu'est-ce que c'est la monstruosité, qu'est-ce que c'est les monstres, qui sont vraiment les monstres dans notre société.
Qui sont les fous.
Qui sont les fous. Et en fait, je m'accapare l'histoire de Maribel, qui était une enfant de 11 ans qui a tué froidement deux enfants. Et comme c'était dans les années 60 en Angleterre, elle a été jugée comme un adulte, alors qu'en fait, elle était prise justement dans une boucle avec sa famille, avec sa mère. Et c'est terrible. Et effectivement, la réalité est beaucoup plus affreuse que tout ce qu'on peut imaginer, en fait.
Elle a plus d'expérience.
Bah oui, puis en fait, l'imaginaire, c'est aussi nous dans le monde, en fait, et c'est ce qu'on chope dans la réalité qu'on va transformer. Donc la réalité, elle ira toujours plus loin, en fait, parce qu'elle est...
Donc l'épuiser, c'est l'épuiser de l'imaginaire, en fait. Quand tu n'es... Le pire d'épuisement, c'est l'épuisement de cette liberté d'imaginer, de penser, de rêver, de rendre quelque chose de possible, parce que c'est ça. La pensée, en fait, on voit bien là, les mélancoliques, l'épuisé du mythe de Sisyphe, c'est quand il n'y a plus de nouveaux imaginaires, quand il n'y a plus de nouveaux verbes, il n'y a plus de nouvelles images. Et c'est un peu quelque part, c'est ça, l'être, que d'être épuisé, c'est d'être à sec, quoi, d'être sans rien, quoi.
Ce que tu me dis me fait penser à certains témoignages qu'on a de gens qui ont été dans les camps de concentration, dans les camps de la mort, et qui s'en sortaient, notamment psychiquement, en se récitant des poèmes qu'ils avaient appris par cœur dans leur vie d'avant, ou en rejouant même des parties d'échecs qu'ils connaissaient par cœur, et c'est comme ça qu'ils s'en sont tirés, qu'ils s'en sont sortis.
Peut-être qu'on peut ouvrir la discussion à la salle. Alors, bon, il y a une, deux, trois, quatre. Je crois que... Oui. Bon, moi, j'ai vu là-bas ce... Oui, voilà, très bien.
Bonjour. D'abord, un grand merci à tous, parce que, franchement, c'est un des meilleurs débats que j'ai jamais entendu de ma vie.
Merci.
La question que je voudrais vous poser, c'est peut-on faire le lien entre l'épuisement individuel dont vous parlez et l'épuisement des ressources de la planète?
Oui, mais c'est un peu, j'ai pris un peu cette métaphore de la crise, finalement. Quand on a, en fait, à partir du moment où on prend conscience qu'on est en train d'épuiser nos ressources, un peu ce coffre qui est en train de se vider, ben on se dit, ben ce qui était impossible, finalement, il y a 10 ans, c'est marrant, devient possible aujourd'hui. Le fait qu'on soit en crise, par exemple, de pétrole ou de gaz, devient possible de faire autre chose. Donc, moi, je pense que, comme en politique, souvent, les crises sont le moment de se réinventer. Et les ressources, à l'échelle individuelle, ça a autant de valeur qu'à l'échelle planétaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on est d'ailleurs tous convaincus de ça? C'est peut-être là le problème. Est-ce qu'on est tous au même niveau de conscience et d'adhésion à cette idée? Je pense que le plus dur, c'est de faire prendre conscience, d'épuiser les gens qui se rendent compte. Parce que, en fait, aujourd'hui, quand vous voyez quelque chose qui est contre l'écologie, qui est assez dévastateur, vous avez ce sentiment de tristesse, d'épuisement intérieur. Vous avez des gens qui passent à côté, ils s'en foutent. Je pense que le défi, c'est la prise de conscience collective à l'échelle internationale. C'est ça qui va être important pour traiter le problème. Donc les images, les auteurs, les images fortes sont importantes pour accompagner ça.
Oui, bonjour, j'ai trouvé bien votre discussion sur l'épuisement. C'est très, très instructif, très intéressant. Je voulais savoir, pour l'épuisement dans les rêves, jusqu'à la différence entre l'épuisement des rêves et l'épuisement pour soi.
Plus précisément, qu'est-ce que vous souhaitez savoir? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lien entre l'épuisement dans les rêves et l'épuisement de soi?
Oui, c'est ça, oui.
Bah après, c'est compliqué à répondre parce qu'il y a des gens qui ne se rappellent pas de leurs rêves. Donc, je pense que ce qu'on peut le suggérer, c'est de rêver à ce moment-là la journée un peu, c'est-à-dire comme se raconter une petite histoire en fermant les yeux. Moi, j'aime beaucoup faire ça, on appelle ça de l'auto-hypnose. Quand je n'arrive pas à dormir ou je me réveille en pleine nuit, j'essaie d'aller choper une petite image. Et autour de cette petite image, je vais me raconter une histoire et après la tête, elle va prendre la relève, on s'endort et on continue en rêvant. Donc peu importe l'image, peu importe l'histoire, c'est de remettre un peu, peut-être parfois à partir de l'éveil jusqu'au sommeil et inversement du sommeil jusqu'au réveil.
Oui, moi je fais la même chose, mais en dessinant en fait, j'ai réalisé que le fait de dessiner me met dans un état méditatif, on pourrait dire, et du coup j'ai tous les rêves de la veille qui reviennent et je me baigne dedans, on va dire, et c'est un moment aussi assez hors de moi, on va dire, voilà.
Bonjour, merci beaucoup pour ce débat qui réveille à 9h du matin. Mais alors, donc vous avez beaucoup parlé de l'épuisement individuel, l'épuisement des rêves, et effectivement, c'est très beau, et je crois que ça parle à beaucoup de gens. Mais par contre, et je voudrais revenir sur ce que disait Christophe Siebert tout à l'heure, sur l'épuisement social, en fait, parce que je pensais que... Enfin, on est dans une période où il me paraît que c'est une vraie question, quoi. C'est-à-dire que je pense que depuis 3 ans, on l'a bien vu. Une chose qui m'a frappée, moi, c'est la crise des Gilets jaunes. Et c'est manifestement le fait qu'une partie de la population française a été exclue du langage. Et donc, par rapport à tout ce que vous dites autour du langage, des rêves, de l'expression, etc., c'est-à-dire à l'échelle individuelle, à l'échelle sociale, on a des gens pour qui tout ça, c'est des problématiques de riches. Moi, j'ai croisé des étudiants là où je vis, les étudiants dans l'université à côté de là où je vis, bah, ils vivent en moyenne avec 3 euros par jour. Donc, si vous voulez, vous êtes étudiant, vous êtes là pour apprendre et justement libérer votre esprit. Et vous ne pouvez même plus rêver à ce stade-là. Il suffit, la question, c'est de manger. Donc, et effectivement, il y a l'épuisement planétaire. À l'échelle planétaire, on a des populations qui sont non seulement épuisées, mais en voie de menace de leur existence. On a, je ne sais pas, plusieurs millions de gens qui ne maîtrisent plus, qui sont analphabètes en France. Et on parle d'inclusion beaucoup, toujours chez nous, enfin, je veux dire, chez nous, dans le milieu de la SF, et qui est un milieu éclairé. Mais en fait, on est très loin de l'inclusion sociale. Et donc, je voudrais revenir, en pensant justement à Siebert, qui fait du roman social, avec toutes les horreurs sociales, ou même à une Butler dans Lien de sang, qui va mettre en scène des situations d'épuisement absolu qui sont liées à l'esclavage et à la domination. Alors cet épuisement-là, on fait quoi et comment vos œuvres, elles s'y inscrivent, en fait? Parce que ça me semble peut-être plus prégnant aujourd'hui que des questions finalement de luxe qui sont comment on surmonte nos dépressions personnelles dans un cadre global.
Ben c'est toujours le paradoxe ou la contradiction. Et je crois qu'on n'a jamais vraiment réussi à résoudre de l'art et de la culture, en fait. C'est-à-dire que on produit de l'art et de la culture pour aider les gens qui vont mal à aller mieux, ou pour leur fournir les armes nécessaires pour changer ce monde qui les oppresse. Mais en fait, on est lu par des gens qui vont bien, qui ont déjà les outils et qui sont. Et c'est vrai que, effectivement, je n'ai aucune idée de savoir. Peut-être que des formes de culture ou d'art plus populaires, comme le hip-hop, parviennent à des résultats que nous n'atteignons pas, c'est possible.
Oui, je trouve ça très intéressant, effectivement. Et effectivement, comment on atteint, comment on pourrait faire évoluer ce problème d'épuisé social, effectivement. Et la prochaine histoire sur laquelle je suis en train de travailler, ça se passe à Détroit, où j'ai habité un peu. Et le truc, c'est que j'arrive pas à m'attacher sur des histoires en France parce qu'en fait, comme je suis là, que j'habite là, j'ai beaucoup de mal à avoir quelque chose qui sort comme c'est là. Donc en fait, je suis toujours en train d'écrire des histoires qui se passent plutôt à l'extérieur, mais qui sont finalement le problème de Détroit. C'est aussi un problème universel avec une ville qui s'est retrouvée en banqueroute et où on a laissé tous les laissés pour compte et tous les riches sont partis et ils ont dû se débrouiller eux-mêmes dans un chaos total. Ils ont réussi finalement quand même, l'air de rien, par eux-mêmes, à avoir une certaine sorte de possibilité de vivre entre eux, d'entraide. Mais le plus triste dans l'histoire, c'est que finalement, cette banqueroute a aidé les promoteurs et à acheter pour rien en fait tout ce qui restait. Et là, il est en train de se construire une nouvelle bulle avec des ultra-riches, une gentrification énorme dans cet endroit qui pourtant donnait... peut-être une possibilité en fait d'autre chose. Donc, quelle est la solution face face à l'argent, en fait, face au pouvoir? Ben, en fait, moi, j'en sais rien, en fait. À part, effectivement, nous, en tant qu'auteurs, raconter des histoires qui parlent de ça, qui parlent de laisser pour compte, qui parlent de gens mis au banc.
Oui, je pense que la culture, l'art, le dessin, ça porte la voix, en fait. Parce que sinon, c'est encore pire si un épuisé social ou un problématique social n'a pas de voix. Donc, je pense que c'est de multiplication des voix qui portent ces questions qui est importante. Et ce n'est pas un problème si, finalement, ça n'atteint pas les gens dont on parle. Parce que si on parle de ces gens, c'est pour en témoigner pour ceux qui n'en ont pas conscience. Donc, que ce soit entendu par les gens qui vont bien, à la limite, c'est encore mieux. Parce que c'est ça que de véhiculer le propos. Après, je pense pas qu'il faut opposer problématiques individuelles et problématiques sociales. S'il y a des épuisés individuels, il faut pas pour autant les négliger. C'est pas une problématique de riche que d'être déprimé. Je suis un peu étonné de cette remarque. D'autant plus qu'on a d'autant plus d'épuisés individuels qu'il y a une problématique sociale. On l'a vécu ardemment dans la crise Covid, et notamment parmi les plus vulnérables, les étudiants dont vous avez parlé, c'est ceux qui ont été le plus épuisés par la crise. Il y a eu après des actions, des choses comme ça. Je pense qu'il a fallu en prendre conscience, il a fallu des gens qui ont transmis la problématique. Après, il y a des tentatives de réponse. Alors, l'art, je pense qu'au moins, au moins de porter, de témoigner, d'être témoin, déjà, c'est beaucoup. Lanceur d'alerte, témoignage.
Merci. Le point commun entre le pauvre, le riche, le violeur, celui qui s'est fait agresser lors d'une guerre, est-ce que ce n'est pas un problème lié dès l'enfance ? Où des problèmes affectifs n'auraient pas été comblés chez un enfant. Je dis ça parce que vous avez parlé de égocentrisme. Vous avez également parlé de manque d'imagination, et peut-être que l'art, par moment, peut justement éviter de s'épuiser peut-être trop rapidement. Est-ce que, quelque part, on n'est pas dans une société qui manque d'authenticité, de diversité de pensée ?
Alors, bon, en tout cas, pas pour la société française. Hein. Peut-être si vous parlez de sens plus large, possible dans certaines sociétés. À l'échelle de ce que vous dites sur l'enfance, ce que je disais tout à l'heure dans ce trésor, un peu dans ce que vous avez à l'image, c'est-à-dire que si vous avez eu une maltraitance dans l'enfance, vous n'êtes pas prêt à affronter la vie de la même façon si vous êtes né dans une famille aimante. Je parle en termes d'amour. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'amour, de bien-traitance, ce qu'on appellerait les bases narcissiques, et qui sont finalement le plus grand des trésors. C'est-à-dire que si vous avez rempli ce trésor d'amour dans votre vie, ben si vous êtes confronté plus tard à des crises, des épuisements, vous êtes plus armé et vous allez réussir à dépasser ces crises plus aisément que si déjà dans votre enfance, dans votre tendre enfance, vous avez subi les atrocités.
Bonjour. Je me permets de prendre la parole puisque j'ai remarqué sur plusieurs tables rondes ces derniers temps qu'on avait tendance à parler des personnes exclues de la société comme si elles ne pouvaient pas être dans le public, comme si elles ne pouvaient pas être sur scène, comme si elles ne pouvaient pas lire vos livres et comme si elles ne pouvaient pas les écrire. Mais ce n'est pas parce que nous sommes cachés que nous ne sommes pas là. Et écrire, il n'y a pas longtemps, un ami m'a demandé « Est-ce que tu as un livre où il y a un personnage qui est fatigué ? Est-ce que tu as un livre où il y a un personnage qui a des maladies chroniques, des douleurs ?» Et j'en ai trouvé deux. Alors oui, on a du mal à y accéder, mais on y arrive aussi. On y va tout doucement. Et on n'a pas seulement besoin de représentation pour parler aux gens, parce que les gens savent qu'on est là, ils veulent juste pas nous voir. Donc même s'ils vont nous lire dans des romans, ils ne voudront jamais nous regarder en face. Mais on a surtout besoin de livres pour nous dire qu'on existe entre nous. Et on n'a pas besoin que ce soit d'autres personnes qui racontent nos histoires pour nous, on a besoin de nous les raconter à nous-mêmes. On a besoin de nous dire comment nous on vit les choses et comment on va améliorer nos choses, mais pas seulement par la force de nos bras, parce qu'on n'a pas beaucoup de force. Mais on parlait de problématiques individuelles, de problématiques sociales, mais comment guérir d'un épuisement quand on n'a pas un logement décent, quand on n'a pas à manger, quand l'allocation d'adultes handicapés est en dessous du seuil de pauvreté. On ne peut pas guérir dans ces conditions, on ne peut pas guérir quand on est seul. Et c'est à ce niveau-là qu'on a besoin d'aide et d'un soutien de gens qui tiennent sur leurs jambes et qui ont plus de force que nous.
Je suis entièrement d'accord.
Pareil.
Oui, et donc cette intervention complète, heureusement, ce que vous avez dit tout à l'heure, à l'égoïsme, il faudrait peut-être aussi penser à l'altruisme aussi, penser aux autres. Voilà, c'est une remarque, entre autres.
Totalement d'accord, mais pour s'occuper des autres, vaut mieux déjà être bien soi-même, parce que sinon, on s'épuise encore plus et on ne peut plus s'occuper des autres. Vous savez, c'est comme dans l'image dans un avion, avant de mettre l'oxygène à l'autre, mettez-vous votre oxygène, vous pouvez aider 1, 2, 3, 4, 5 autour de vous. Si vous mettez que à l'autre, vous allez mourir avant de pouvoir aider quelqu'un d'autre. Voilà, c'est plus dans, bien sûr, l'altruisme, mais ce n'est pas exclusif hein, quand on défend une idée, ça n'exclut pas les autres idées.
Bonjour. Moi, l'image que j'ai quand j'entends le mot épuisement, c'est l'image de ne pas arriver à son but. Voilà, c'est la rivière qui s'épuise avant d'arriver au fleuve, c'est le fleuve qui se tarit, et voilà, c'est fini. Donc, est-ce que la solution à l'épuisement, ce serait tout simplement de ne pas avoir de but ? Voilà, quand j'étais enfant, moi, je ne me sentais jamais épuisé. J'étais bien, je regardais Récréa 2, tout allait bien. Je suis en train de lire votre livre, Monsieur Siebert, votre personnage, là, c'est un tueur, vous parlez de quelqu'un d'épuisé, mais il a l'air d'aller très bien, en fait, il a l'air en pleine forme, il n'a pas de but. Là, il est en train de regarder Récréa 2, il fait plein de choses avec sa maman et tout va bien. Et il ne me paraît jamais épuisé. Donc est-ce que quand on arrive à l'âge adulte, on se met des buts et c'est là qu'on devient épuisé. Quand on est enfant, on n'est jamais épuisé. Donc voilà, est-ce que l'épuisement chez l'enfant et l'adolescent arrive ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas abandonner toute forme d'ambition ?
Ouais, c'est pas entièrement faux, mais du coup, ça voudrait dire que la solution pour échapper à l'épuisement serait d'échapper au monde. Mais est-ce qu'on veut vraiment échapper au monde ? C'est pas évident. Est-ce qu'on veut juste s'enfermer dans la complaisance de soi, ben, comme justement le personnage de Nuit Noire, qui tourne pas très bien. Je vais pas spoiler, mais mais du coup, quitter le monde pour quitter l'épuisement, je sais pas si c'est la solution la plus intéressante.
Non, je pense que votre question est fondamentale, c'est-à-dire, mais il y a l'enfant épuisé, ça existe malheureusement, c'est la souciance et l'insouciance. Ce dont vous parlez, c'est l'enfance rêvée dont on parle tous, c'est-à-dire de vivre dans l'insouciance. Et le claque qu'on se prend tous, c'est le jour où cette insouciance s'arrête. Et malheureusement, il y a de l'enfance soucieuse, il y a de l'enfance maltraitée, il y a de l'enfance abîmée. Donc, oui et non dans ce que vous dites, mais je pense que la limite, c'est cette question de protection et de souciance et insouciance. Pourquoi on rêve tant, tous, on a envie de cette bulle de l'enfance ? Parce que, à part vivre, où tout est, les besoins essentiels sont normalement assurés, si on est dans une famille aimante et normale, ben c'est ça, quelque part, une forme de quiétude, de bonheur qui nous protège de l'épuisement.
En fait, arriver à vivre sans but, ça veut dire arriver à vivre au jour le jour, au moment présent. Et c'est un peu l'image qu'on a de quand on est enfant, on est capable, effectivement, parce qu'on n'a pas besoin de chercher ses ressources pour vivre, on n'a pas besoin de chercher quoi manger, etc. Et donc, ce serait un état comme ça, fabuleux, Mais comme tu le dis, en fait, il y a beaucoup d'enfants pour qui c'est pas la réalité non plus. En fait, quand tout à l'heure je vous parlais de Maribel, c'est un témoignage absolument atroce de cette gamine, et ça réunit un peu tout ce dont on parle. Un milieu social très 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 défavorisé en Angleterre, une violence dans la famille avec sa mère, une justice anglaise à l'époque qui ne s'est pas souciée des traumas de cette gamine et la monstruosité de son acte. Et en fait, effectivement, ce que je voulais juste dire, c'est qu'il y a aussi des enfants en fait qui sont pas du tout à l'abri de ce genre de problème, quoi.
Puis cette notion d'insouciance telle que vous l'évoquez, ça me fait aussi un peu penser à la dissolution de l'ego dans la pensée bouddhiste, c'est-à-dire qu'on échappe à soi, on échappe aux vicissitudes du monde, mais d'une certaine façon, est-ce que c'est pas échapper au fait d'être humain, c'est-à-dire qu'il y a d'une certaine manière être un humain vivant dans le monde, c'est se confronter aux horaires inlassables qui nous proposent et soit faire face, soit se faire engloutir par le torrent de boue. Mais être humain, je pense, c'est quand même être plongé dans ce torrent-là, quoi, d'une façon ou d'une autre.
Alors, il nous reste plus de temps, malheureusement. J'aimerais juste vous dire deux choses. La première, c'est que Christophe Siebert est en dédicace là, à l'instant, à la grande librairie. Donc, si vous voulez aller le voir, acheter son livre, le faire signer, il sera là.
Oui, on est tous les trois.
OK, tous les trois ? Magnifique, la brochette entière. Donc, vous pourrez aller poser vos questions. Je sais qu'il y en a encore plein. Et on me signale également, côté cinéma, à 13h15, aujourd'hui, en salle Hyperion, il y a le film « La vie à l'envers » d'Alain Jessua, qui entre en résonance avec la thématique d'aujourd'hui. M'a-t-on dit ? Je ne l'ai pas vu. Donc, vous pouvez, si vous souhaitez prolonger, aller voir ce film. Merci beaucoup.